Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Antoine, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir parce que j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien la personnalité que je vois au travers de différentes interviews. Mais je vais te demander, sans plus tarder, de te présenter autant d'un point de vue personnel que professionnel en nous disant que ce que tu as envie de nous dire.
Eh ben, enchanté en tout cas d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Antoine Fine, j'ai 42, c'est bon, je suis dans la catégorie où on a plutôt envie de donner son âge, 43 même en juillet.
T'inquiète, je suis dans le même cas dans pas longtemps.
Bon. Après, bah, j'avais fait une crise de la trentaine, donc j'ai pas la crise de la quarantaine. Donc,
ouais, pareil.
Écoute, on a des points communs. Alors je suis marié, parce que la dernière fois que j'avais dit que j'avais 3 enfants sans dire que j'étais marié, ma femme m'avait tancé, donc je suis marié avec Delphine qui est psychologue pour enfants et ados.
Intéressant.
Et on a eu nous-mêmes nos propres cas internes. On a 3 enfants, 8, 6 et 2.
Ouais.
Et on a eu des petits sujets. Ça a été des moments assez forts dans tous les sens du terme en famille. Mm-hmm. Mais ça progresse. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai construit plusieurs choses dans ma vie. Donc une famille, un projet professionnel à rebondissement et qui a abouti récemment. Quand je dis récemment, c'est parce que du coup, j'ai quand même 43 ans. Depuis 2015, dans le fait d'accompagner des marques émergentes engagées dans le renouvellement de la société de consommation. Mm-hmm. Et donc voilà, je suis désormais... président d'Autopia Gestion, qui est une société de gestion agréée par l'AMF, c'est-à-dire l'Autorité des marchés financiers, pour investir l'argent d'autres personnes, donc des fonds d'investissement, dans ces marques. Voilà, on a 30 lignes en portefeuille. Et voilà, je suis parisien d'origine du sud-est et je passe dès que je peux un maximum de mon temps dans les Alpes où je fais, où j'adore toute saison le cadre de la montagne.
T'es très sportif.
J'aimerais être meilleur, je suis moyen partout, donc j'ai pas un sport de prédilection. En revanche, effectivement, j'adore. Dès que je peux, là, il faut que je me remette au sport parisien. En fait, dès que je suis en dehors de Paris, oui, tous les sports m'amusent.
Genre quoi ?
Eh ben, ça va du alors l'hiver ski, mais dans toutes ses formes, ski de rando, kite ski. Je me suis même mis au ski de fond pendant la fermeture des stations. Mm-hmm. Et c'est là où tu découvres que t'as des muscles que tu avais oubliés.
Tu ne soupçonnais pas.
Qui font très très mal au bout de quelques minutes. Donc ça va tous les sports de glisse d'hiver, j'adore. L'été, montagne, rando, je fais du kite. Alors je fais pas des grands sauts, mais je m'amuse bien. Enfin tennis, voilà. J'aime tous les sports en étant moyen partout.
Ça, c'est toi qui le dis. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en préparant notre entretien, j'ai un peu l'impression que tu es le pro de la résilience, si je peux dire ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ton parcours a été une suite de prise de conscience, suite à des changements, de point de vue. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti mais tu vas nous en parler, hein, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que finalement, donc, tu as fait une école de commerce, tu es rentré chez Lazare, tout de suite après d'ailleurs, je ne sais pas si c'était tout de suite après.
Mais ceci dit, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, je crois que c'est un bon, on ne l'avait jamais formulé comme ça, mais c'est une bonne analyse, je pense, et cette résilience, à la limite, j'ai quelques exemples même avant, avant ce début de vie pro qui a l'air complètement standard.
Non, au contraire, justement, enfin, il n'est pas standard, tu vois, moi, ce que je voulais dire par la résilience, c'est qu'on a l'impression que tu as pris des virages... très différent, avec des vraies prises de conscience profondes, tu vois. Donc, j'ai entendu parler de beaucoup de fonds qui font pas la même chose que toi, mais
on peut le dire, c'est quand même dans l'air du temps, mais toi, j'ai l'impression que ça vient vraiment de tes tripes.
Ouais, tu vois, alors ça c'est clair que je suis quelqu'un qui se pose pas mal de questions et je j'arrive pas à faire des choses sans être à fond. Et du coup, en revanche, je suis toujours à fond, donc c'est faut que je fasse gaffe parce que je mets quand même beaucoup d'énergie, d'affect dans tout, donc c'est à la fois fabuleux et en même temps extrêmement usant et parfois peut-être un peu risqué. Mais effectivement, j'ai jamais fait les choses de manière un peu mécanique ou sans questionner le choix ou la suite. Donc ça c'est vrai. Et ensuite j'ai un parcours qui vu de loin où.
Mais tu me disais avant HEC, avant Lazare, tout ça, il s'était passé des choses.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, exactement. Donc je dis souvent que LinkedIn c'est l'Instagram de la vie professionnelle. Donc si on regarde mon LinkedIn, on dit ouais, bah super, il a enchaîné. Ginette, HEC, Lazare, son fond, etc. Alors qu'en fait, chaque étape a été entre guillemets douloureuse. Et j'ai vraiment des anecdotes qui me viennent. C'est par exemple, je passe mon bac, j'étais plutôt bon élève. Je me suis cassé la clavicule le week-end avant le bac en tombant dans un ravin avec mon petit scooter en rentrant une soirée. Donc j'ai passé le bac avec l'épaule cassée. J'avais des poids pour tenir ma feuille. J'avais hyper mal et j'étais vraiment en mode galère pendant le bac. Alors que c'était censé bien, ça devait bien se passer. Après en prépa, je me suis pété la mâchoire un matin des concours en tombant, j'ai fait un malaise vagal, donc j'ai été opéré pendant la semaine des concours, j'ai raté une épreuve, enfin c'était j'avais des bandelettes et je crachais du sang dans la salle d'examen. Donc je me suis toujours mis un peu des bâtons dans les roues. Chez Lazare, effectivement, c'était une époque vraiment assez dure, un environnement assez dur. Après c'est moi qui ai choisi, hein. Ou même la prépa, j'arrive de ma province, j'étais dans les bons élèves, je me rappellerai toujours la première note, c'était fine 3, 32e sur 30, je pense 34 dans la classe. Donc je me suis privé la volée de bois vert. Donc à chaque fois je me suis mis en difficulté, soit de manière plus ou moins, volontaire. Je me suis pas mis dans le ravin exprès avant le bac, mais c'est vrai que j'ai jamais fait les choses de manière très simple. C'est marrant, je sais pas comment ça se fait, mais
t'as des parents, ils font quoi tes parents sans indiscrétion ?
Eh ben mes parents, écoute, ils ont un profil, je trouve assez intéressant
entrepreneur.
Une partie pas très originale. Donc mon père a fait comme moi les mêmes études. Mais vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelqu'un de entre guillemets de l'ancien monde. On en parle assez ouvertement. Il a fait 40 ans de carrière chez Lafarge, qui était la boîte qui a disparu. D'ailleurs, c'est un pour en reparler l'occasion. Mais c'était voilà quelqu'un de l'ancienne vie professionnelle où on dédiait sa vie à on en parlait juste avant de faire l'enregistrement sur le temps long, quoi. C'est des gens qui s'inscrivaient dans un projet
une carrière,
une boîte paternaliste avec des valeurs, enfin, et bien donc sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans des moments où tout bouge tout le temps, on change de métier hyper vite, tout
les cycles sont de 3 ans
hyper courts,
enfin, même pas.
Donc ils représentent ce monde là et ce que je trouve intéressant, c'est que typiquement quand j'avais pris mon année sabbatique donc pour mes 30 ans, je m'attendais à ce qu'ils me disent Antoine, ta carrière, etc. Et il m'a dit, j'aurais jamais fait ça, mais c'est complètement fabuleux ce que tu veux faire. Il m'a sorti une carte et on a commencé à regarder où je pourrais aller avec ma petite Vespa. Donc c'est quelqu'un qui représente à la fois une forme de stabilité, de continuité et quelqu'un qui prend toujours les choses en n'oubliant pas l'essentiel. Et il se met beaucoup moins de pression que moi sur ses réalisations. En fait, du coup, il me fait du bien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très heureux d'une vie qui a été remplie de facialement pas de beaucoup de choses marquantes comme quelqu'un qui aurait plein de rebondissements ou en tout cas sa vie moins rocambolante que la mienne entre guillemets de l'extérieur, mais il est profondément heureux de ce qu'il a et donc ça m'a toujours marqué parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui arrive à
être satisfait,
avoir une continuité. Se voir les belles choses du quotidien. Voilà, là il est retraité, il est très actif, il me racontait qu'il aidait au nettoyage de la ville d'Avignon, ils habitent Avignon et il me disait j'adore parce que quand je suis dans le parc, je vois des scènes du quotidien, et il me racontait ça dans un message, ça m'a vachement touché quoi. Alors que moi je suis à courir partout et peut-être que je vois pas ces petites scènes. Donc voilà, ça c'est mon père. Et ma mère c'est quelqu'un qui a un parcours dans l'engagement social. Donc elle vient d'une famille bourgeoise de Lyon, mais je pense qu'elle avait une forme de volonté de contrebalancer ça. Et donc elle a fait toute sa carrière dans les centres sociaux, elle a eu des moments très très durs dans les quartiers difficiles d'Avignon. Et à vouloir toujours faire en sorte que les liens soient là entre les gens. Elle a développé des associations de dialogue interreligieux pour éviter le clivage musulman-chrétien. Elle avait développé une association Tous Citoyens pour faire parler les citoyens avec les dirigeants politiques locaux, la police, etc. Enfin, voilà. Donc c'est quelqu'un de très engagé dans la cause sociale. Et donc pareil, c'est vrai qu'on a vite fait, quand on est dans la finance ou des environnements un peu déconnectés, d'oublier ces réalités-là. Mmh. Et ils m'ont toujours rappelé ça par leur propre engagement, quoi.
Très intéressant, je comprends un peu mieux ton parcours, si je puis me permettre. Donc du coup, après Lazare, grosso modo, tu décides de changer de voie au bout de combien de temps ?
Donc je suis rentré en 2003 en sortant, donc tu reprends ta question, c'est en sortant d'école. J'ai fait un stage de fin d'études. Pour l'anecdote, à la fin du stage, moi ils ont fait un processus de recrutement. Ils voulaient quelqu'un d'un peu plus senior, je crois, pas forcément mon profil. Donc moi je suis parti en Italie en me disant ma vie, de toute façon, ce sera l'Italie. Je rêvais d'avoir une vie italienne. Donc, j'ai pris un aller simple pour Milan. J'y ai passé 4 mois. J'avais trouvé un VIE. Finalement, ils m'ont rappelé après le process en disant, le petit jeune, il était pas si mal. Donc, finalement, on va prendre un autre profil que prévu. Donc, je suis revenu à ce moment-là.
D'accord.
Et donc, là, premier choix de vie où j'en ai eu quelques-uns comme ça. Et je pense que tout le monde a eu ça dans sa vie. C'est des carrefours. On dit, tiens, j'ai droite, gauche. Et de temps en temps, tu y repenses. Tu dis, tiens, ça aurait été quoi ma vie si j'étais resté à Milan? Donc voilà, ça c'était un premier carrefour. Donc là j'ai fait 2003-2009 et après j'ai eu c'était un peu une triple crise. Il y avait Lehman Brothers pour la crise macro, donc c'était la faillite de cette grande banque qui a engendré un peu un arrêt de la finance à ce moment-là. Une petite crise physique où j'étais vraiment pas bien en fait, juste j'avais plein de signaux que j'allais pas bien, donc c'est mon corps qui m'a parlé. Et puis après j'ai eu une petite crise aussi de liée au décès d'un copain, un accident de voiture en juin 2008, où je me suis dit oulala, si ça s'arrête demain, moi je bosse jusqu'à 2h du mat, je fais rien d'autre que des fichiers Excel. Je me suis senti d'avoir vachement d'énergie en moi, et en fait j'en fais rien, donc du coup c'est pas possible. Et donc à ce moment, le cumul de ces trois trucs m'a fait demander une année sabbatique. Donc c'était une version facile de du changement de voie qui est je prends juste du temps.
Mais non, mais finalement, t'as bien fait parce qu'il y a plein de gens qui claquent la porte et qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau.
Faut faire gaffe, en fait. Moi, super gaffe. Tout le monde me dit, je rêverais de faire ce que t'as fait. Il y a des personnes qui me disent ça et je dis toujours attention, parce que déjà, c'est hyper engageant.
Parfois, c'est de la fatigue. Puis c'est de la fatigue.
Exactement. On peut prendre des mauvaises décisions.
Prendre des vacances, en fait.
Exactement. Il y a pas de, je sais plus quel dicton. Il y a pas de bonne décision qui se prend dans l'urgence et dans la, et sous pression, en fait. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. En plus, dans mon métier, je le vois vraiment au quotidien. Et donc là, en gros, je me suis dit, je vais juste me donner du temps. Et donc j'avais mon contrat qui m'attendait un an après, donc c'était entre guillemets facile. Maintenant, ça m'a pas empêché de cogiter un max, et cette année-là était plutôt pour préparer la suite. Donc voilà, donc du coup, en faire courte, en rentrant, j'ai passé une demi-journée dans mon ancien bureau, et je me suis dit, non mais ça va vraiment pas être possible, j'avais vraiment complètement déconnecté. Là, j'ai même cru que je reviendrais plus dans le système. J'envisageais des vies très différentes. Il y avait le film de Romain Duris à ce moment-là, L'homme qui voulait vivre sa vie. Je l'avais regardé en me disant, en plus, je crois que c'est au Monténégro où j'étais passé aussi. Je me dis, je vais devenir photographe. Donc là, j'ai cru que j'allais pas revenir. Et puis,
ça part pas d'un bel événement dans ce film-là. Je crois qu'il y a pas un meurtre ou un truc comme ça.
Il me fout le feu un bateau,
type,
là.
Il y a un type qui meurt.
Alors j'ai tué personne quand même. mais un peu moi-même, un peu mon premier mois, mais à la limite, c'est pas mieux. Et après, pour la faire courte, je me suis dit, je sais pas trop ce que je sais faire, à part du coup l'investissement, puisque c'est ce que j'avais fait. Et donc, j'ai essayé de faire de l'investissement différemment. Donc, j'ai rencontré tous les fonds.
Non, mais d'abord, t'as fait un vrai parcours en Vespa, non?
Ah oui. Alors, mon année sabbatique.
L'année sabbatique, tu l'as utilisé à faire quand même énormément de pays, ce qui t'a amené même à monter, je crois, un fonds en Libye. Ou
exactement, tout à fait. Alors, donc, mon tour, alors, c'est pour dire 2 secondes. En fait, donc, je viens de Marseille, je suis né à Marseille, je me sens très marseillais. Et donc, mon voyage, c'est un voyage un peu initiatique, entre guillemets. Donc, j'ai fait Marseille, mais en sortant de la ville quand même. Donc, du coup, j'ai fait tout le tour de la Méditerranée avec ma Vespa, donc de l'Algérie. Enfin, j'ai pris le bateau à Marseille et ensuite, j'ai fait donc de l'Algérie, Tunisie, Libye, tout le tour. Jusqu'au retour à Marseille 9 mois après, avec ma famille qui m'attendait sur le vieux port avec des banderoles et tout, c'était incroyable. Et donc c'était un voyage pour me construire. Enfin, souvent je dis que j'avais construit mon moi professionnel et pas mon moi personnel, et là je voulais construire mon moi personnel. Donc je me suis exposé à la solitude, aux aux contrées inconnues, aux langues inconnues, à la rupture sociale complète. C'est-à-dire que du coup, on a plus aucune de ses habitudes, aucune de ses relations. Et donc, c'est un moment de grande fragilité.
Mais t'as aimé ça?
Alors,
c'était dur.
Alors donc c'est une très, très bonne question parce que pendant le voyage j'ai eu des moments très durs. C'est clair que c'est faut pas raconter l'idylle du voyage parfait, etc. Alors j'ai globalement été hyper content de cette aventure qui m'a bouleversé marqué. Au sens positif du terme. Et d'ailleurs ça a diffusé pendant très très longtemps. J'ai pas vu les conséquences tout de suite de tout ça. Donc je suis hyper content d'avoir fait. Ensuite j'ai adoré, c'est-à-dire que j'ai justement fait ça à la fois parce que je me sens méditerranéen, à la fois parce que c'est un peu le berceau de notre humanité. Il y a des villes incroyables, enfin Jérusalem, les pyramides, Istanbul, enfin des villes de dingue que je connaissais pas, que j'ai pu visiter pendant ce tour. Et j'ai fait plein de rencontres fabuleuses, enfin dans chaque pays. J'avais un peu préparé, j'avais demandé qui connaissait qui. J'ai eu des rencontres complètement dingues en Albanie, une dame qui était une amie de ma tante qui avait hébergé sa fille qui est devenue médecin. Elle a été dans des camps de travail forcé. Enfin, c'était des...
Et t'as fait un reportage photo de tout ça, je crois, non?
Ouais, alors du coup, c'est marrant parce que c'est le début des réseaux sociaux. Donc, quand je m'arrêtais dans les hostels ou les auberges, t'avais la moitié des gars ou les trois quarts qui étaient sur Facebook à raconter leur voyage. Et je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je raconte ou je raconte pas? Je me suis dit, je vais passer mes heures dans le internet café à raconter alors qu'il faut que j'aille dehors rencontrer les gens. Ouais. Donc, je me suis dit, je raconte rien. Et donc j'ai pas du tout fait, j'aurais peut-être pu être influenceur si j'avais commencé à ce moment-là. Et donc en revanche j'ai pris des photos, alors pas dans l'optique au départ de faire un reportage, mais il se trouve qu'à la fin effectivement j'ai passé 4 mois en sous-marin chez moi, de toute façon j'avais rien envie de faire d'autre, pour trier ces photos, et à l'époque on les gravait sur des CD, etc. Et j'ai fait un album effectivement qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps, un peu par chapitre, que j'ai offert à mon entourage. Il est plutôt joli, je trouve, et qui, voilà, qui m'a permis de partager avec eux, parce que finalement j'avais vécu ça tout seul, et justement je voulais le partager quand même. Donc, moi je me suis écrit un carnet, mais j'ai vécu ça vraiment seul. Parfois d'ailleurs c'était...
Ouais, ça a dû être très très dur.
Ah ouais, il y a des moments où t'as le cerveau qui tourne tout seul. Je me rappelle sur ma Vespa, sur les lignes droites d'Égypte ou de Libye, là, que j'ai commencé à réfléchir.
Tu dois te sentir tellement
seul. Mais surtout, en plus, t'as l'impression de sortir de ton corps,
ouais,
tu sais, t'es dans tes réflexions en boucle.
Oui, parce que t'as pas de confrontation avec
les gens.
T'as
pas de confrontation,
ouais.
Alors après, du coup, je faisais toujours attention à l'inverse, de rencontrer des gens. Donc ma technique de base, c'était de m'arrêter sur une place du village. Je mets ma Vespa, donc la Vespa qui est assez jolie avec la grosse malle, avec les drapeaux des pays où je suis allé. Bon,
ça attirait les gens.
Voilà, et j'avais fait exprès, je mettais une carte à l'extérieur de la malle, comme ça, et je notais mon voyage. Donc, du coup, quelle que soit la langue, je pouvais montrer d'où j'étais parti. Et donc, ça crée tout de suite le lien. Et puis après, il y avait toujours quelqu'un qui parlait une langue ou l'autre. Alors, j'ai dû me remettre un tout petit peu à l'allemand en Turquie, ce qui était très, très dur. Mais sinon, c'est l'anglais quand même. Et puis, j'ai appris un peu d'arabe. Voilà, donc, du coup, j'ai fait plein de rencontres, des gens avec qui j'ai gardé des liens. Mais effectivement, c'était une aventure. Dont j'avais besoin, et donc si on me demande si ça m'a plu et si j'en suis content, la réponse est oui, parce que c'est vraiment, je l'ai fait mais sans aucun courage, j'avais juste besoin de ça, j'avais envie de le faire, je me suis pas du tout forcé. Et après, bah oui, la solitude, les galères diverses de parce que par exemple tu passes ta vie à faire des choix. Alors l'avantage c'est que tu n'engages que toi, ce qui est beaucoup plus dur là, aujourd'hui, tu vois, je me sens beaucoup plus à engager beaucoup de responsabilités des gens qui ont investi dans le fond, des salariés de Topia, etc. Mais à l'époque ça n'engageait que moi, mais vraiment je suis passé la journée à décider, c'est assez usant.
C'est hyper usant.
C'est usant. Toujours, tu vas te dire où je vais, où je dors, qu'est-ce que je vais faire.
À aucun moment,
tu
es porté par un rythme.
Exactement, par quelqu'un
par un
qui.
Groupe. Ouais,
exactement. Ouais. Et c'est marrant, ça, je n'avais pas mesuré. Donc, c'était vraiment usant de ce point de vue-là, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais me confronter à. Ben voilà,
à la liberté.
Ouais, exactement. Et c'est la liberté, il ne faut pas la magnifier.
Non, elle a des mauvais côtés.
Exactement. Ouais. Parfois, suivre le flow, c'est pas mal aussi. Et donc, voilà, donc ce truc-là m'a. Voilà,
magnifique.
Marqué.
Enfin, moi, ça m'a marqué aussi, hein, parce que quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça assez dingue. Surtout sur un.
Alors, si tu veux, ma Vespa, hein. Si tu veux, on pourrait la voir, elle est à 100 mètres.
Écoute, il faut que tu montes la carte aussi.
Ouais.
Rentrée de là, tu me dis pendant 4 mois, je veux plus bouger, je veux plus rien faire. Enfin, tu te reposes aussi. Enfin, je pense que ta tête continue de tourner à vide un peu,
ouais.
Non ?
Alors, en plus, tu te dis, attends, c'est marrant parce que là, c'est une phase qui est super dure et je pense que beaucoup de gens vivent ça. C'est J'ai pas fait tout ça pour ça. Et donc, en fait, quand t'as l'impression d'avoir fait un effort, en fait, tu te mets une énorme pression sur le fait que ça aboutisse à quelque chose de grand et qui va être reconnu. Parce qu'effectivement, t'as pris un risque social de quitter des beaux jobs et tout ça. T'as fait un voyage, tout le monde te dit, ah, génial, j'arriverai de le faire, moi. Sauf que, du coup, voilà, les gens le font pas forcément. Et puis, encore une fois, faut l'assumer. Et après, tout le monde t'attend un peu au tournant. Bon, bah, so what? Donc, t'as fait tout ça. Et donc, est-ce que, ça y est, tu es devenu moine bouddhiste? Est-ce que t'es peintre? Est-ce que tu...
Il faut qu'il se passe quelque chose.
Il faut qu'il se passe un truc. Et ça, c'est assez dur parce que du coup, et puis à la hauteur quelque part de l'espoir que t'as suscité. Parce que du coup, moi, j'avais eu un parcours qui, au départ, était plutôt dans les bons élèves, etc. Donc, il y avait un peu d'attente d'un point de vue académique, puis professionnel. Puis le voyage, c'est vrai que c'était quelque chose qui avait une sacrée aventure. Donc, certains disaient, waouh, ouais. Et donc, on t'attend au tournant. Et là, sauf que t'as plus aucune énergie.
T'es vidé
et tu sais vraiment pas ce que tu veux faire, parce qu'il y a rien qui a du... Enfin, en tout cas, si je vis comme ça, il y a rien qui a du sens. Donc, ma couette faisait 6 tonnes. Je pouvais pas me lever. Et je voyais pas ce qu'il y allait. Donc, j'avais cette espèce de pression que je me mettais, que je sentais. C'était hyper dur. Parce que c'était en 2010 et franchement, c'était avant la vague entrepreneuriale. Donc, dire que t'es à ton compte en train de réfléchir à des projets, ça passe pas top dans les dîners. Et donc, quand mes copains disaient t'as acheté combien du mètre, etc., moi je disais. Je suis locataire et je sais pas trop ce que
je vais
faire.
De quoi je vais manger
demain? Non, alors j'avais mis de l'argent de côté. Franchement, d'accord. J'ai jamais eu de stress matériel. On en parlait tout à l'heure. C'est sûr que c'est selon les... J'avais fait ce qu'il fallait pour avoir le CV et l'argent de côté. Donc,
pour
j'ai
reprendre un job très rapidement, en fait, non?
Voilà, j'ai pas stressé. Là où j'ai commencé à stresser, c'est justement après l'expérience en Libye. Là, je me suis marié, j'ai eu mon premier enfant. Et là, l'année en Libye, j'étais pas payé, j'avais moi-même investi dans le projet. Et donc
ça, c'était après ta période de 4 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après ces 4 mois en question?
Alors, l'énergie est revenue. Donc, j'ai créé ma boîte Avanti, qui est le nom de le petit cri de guerre qu'on a en famille. Donc, j'étais tout content d'avoir. Parce qu'à l'époque, c'est pas sur Internet en 2 minutes, hein, fallait aller au centre. Donc, j'étais trop content d'avoir enregistré ma boîte. Super. Et je m'étais dit, allez, c'est parti. Et donc, j'ai commencé à retrouver de l'énergie. Et donc je suis parti sur différents projets, on peut y revenir ou pas, j'en ai fait plein. En gros, mon idée c'était, ce que je sais faire c'est de l'investissement, techniquement, et puis c'est vrai que j'ai toujours un peu l'œil pour les trucs qui vont marcher. Je sais pas comment dire, mais quand j'écoutais une musique, je me disais, ah tiens, celle-là elle est bien, et boum, c'était un truc effectivement
qui cartonnait
bien.
J'ai un peu le même genre de truc moi, c'est marrant, surtout avec la musique.
Ouais, c'est drôle. Je me rappelle vraiment un truc, j'avais écouté le CD Black Eyed Peas random comme ça, quand j'étais à Milan pendant les 3 mois avant de retourner chez Lazare.
Et tu t'es dit, ça va être un carton.
Et non, mais c'est vrai, je sais plus quelle chanson de truc, mais je me dis, mais elle est mythique, vraiment, c'est à l'époque où tu pouvais mettre les CD pour les écouter. Je lui écoute les pistes et puis je me dis, celle-là est mythique. Elle est devenue, je sais plus laquelle c'était, mais c'était un énorme hit.
Tintin, c'était pas celle qui démarre comme ça?
Ça, c'est Let's Go to the Roof.
I got a feeling, non?
Ouais, I got a feeling, non, ça c'est avant. C'est vraiment le tout début de Black Eyed Peas, c'était d'accord. Pas connu. Bref. Bon, donc j'ai un petit œil sur, ou un petit nez sur ce qui va bien marcher, pas marcher. Et donc, pourquoi je te dis ça?
Non, mais parce que tu me dis, j'ai été entrepreneur à cette période. C'est-à-dire que c'est la première fois, finalement, avec Avanti, que tu te dis, je vais entreprendre quelque chose et je vais créer quelque chose.
Et donc, je m'étais dit, je sais faire l'investissement techniquement. J'ai plutôt le flair pour les trucs qui vont marcher. Donc, je vais essayer de trouver des projets qui ont un peu d'avenir et je vais essayer de les financer et de les accompagner. Donc, j'ai notamment lancé une petite gamme de snacking sains. C'était en 2011 avec ma sœur qui venait du bio, qu'on a revendu à un groupe de distribution de snacks. Je suis allé rencontrer tous les fonds d'impact en me disant, c'est ça l'avenir, c'est les projets d'impact. Et au début, il y avait un peu un stretch, un grand écart entre le monde, on va dire, économique, qui joue les règles de marché avec le fait que le profit soit acceptable et la rémunération de l'actionnaire, et le monde plutôt de l'économie sociale et solidaire, et l'impact était plutôt encore du côté non-profit. Donc moi, c'est vrai que venant de Lazare et du LBO, c'était même si je remettais tout ça en cause, c'était quand même un peu loin de mes bases. Et donc j'ai pas tout de suite trouvé ce que je suis arrivé à faire, je pense, avec Utopia, le point d'équilibre entre l'impact et la réalité de l'activité économique telle qu'elle existe.
Peut-être parce que c'était pas le moment non plus.
Je pense que c'était tôt. Hein. J'avais rencontré Fanny Picard, je me rappelle, qui a lancé Alter Equity dans son appart, et elle quittait Vindel et elle était au tout début de sa réflexion. Citizen Capital, c'est des gens qui m'ont marqué. C'est Pierre Olivier Barenne qui est quelqu'un qui venait des grands fonds d'LBO aussi. Donc c'est des gens avec qui j'ai parlé de ce virage, de gens qui venaient comme moi de la finance pure et dure entre guillemets, et qui cherchaient du sens et le faire différemment. Donc pendant pas mal d'années, j'ai cherché à faire ça différemment, y compris du coup en Libye, tu le mentionnais, où du coup j'ai été hyper content de retourner après mon voyage. Et donc c'était à la chute de Kadhafi. contexte. Enfin, c'est vrai que quand tu te poses plein de questions et que tu trouves que finalement la société a pas trop de sens, les pays émergents, enfin, le côté un peu géopolitique et des pays en reconstruction, c'est des trucs qui sont hyper attirants.
Constructif aussi.
Ouais, et on se dit waouh, mais là, je suis hyper utile.
Il y a tout à faire.
Donc, j'ai trouvé ça, mais hyper grisant d'être à la chute au changement de régime avec tout l'espoir qu'il y avait autour de ce pays. Bon, malheureusement, effectivement, c'est un pays qui, je voyais encore il y a deux jours, il y a en ce moment une attaque en cours. Il y avait trois gouvernements, je crois qu'il n'y en a plus que deux, mais il y en a un qui attaque l'autre là. Donc, c'est malheureusement un pays qui s'est pas remis, j'allais dire en ordre de bataille, mais en tout cas, s'il est resté en ordre de bataille, malheureusement. Et donc, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais j'ai vécu des morts. J'ai mis une énergie folle, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas faire les trucs à moitié. Ça m'a lessivé. Mais en revanche, je suis fier de ce que j'ai fait qui n'a pas finalement abouti tant que ça, mais on a créé une école quand même physiquement. On a été retenu par la Banque mondiale pour être la business school Banque mondiale avec les programmes de la Banque mondiale. Et donc j'avais formé tous les profs et j'ai pas pu faire une seule session parce que l'aéroport a brûlé en juillet 2014 et on a dû arrêter d'y aller. Mais ça devait être en mai 2014 où j'ai eu l'accréditation. J'ai quand même fait des formations en faisant venir des profs arabophones, donc notamment des profs tunisiens ou marocains des écoles de commerce françaises sur place pour former des étudiants ou des boîtes sur place. Et mon truc qui m'a rendu le plus fier, c'est qu'il y avait un appel d'offres de l'ONU pour former l'élite libyenne puisqu'il n'y avait pas d'élite, il n'y avait pas de dirigeants. Et donc, j'avais fait une offre de 150 pages avec l'ENA. J'étais allé chercher l'ENA à Paris, l'université de Sharjah et l'université au Maroc. Et on avait fait un programme pour former les futurs dirigeants en fonction régalienne, à comment marche un pays. C'est génial, quoi. Je me suis dit, mais si j'ai fait ça, mais c'est incroyable. Et donc, j'ai bossé jour et nuit. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Il fallait remettre l'offre le vendredi à 15h. Et j'ai bossé de mon salon du jeudi matin au vendredi 15h sans m'arrêter.
Mais c'est une super idée qui est duplicable dans d'autres pays, finalement. Enfin, tu n'es pas obligé de le mettre de côté, ce truc-ci.
Alors, ce serait quand même dans
ses
mérites.
Mais...
En fait, je l'avais fait avec des copains qui ont lancé une société qui s'appelle Altai Consulting. Ils l'ont lancé en 2003 en Afghanistan, à la suite du premier régime des talibans. Malheureusement, du coup, 20 ans après, ils sont revenus. Et donc, eux, ils sont spécialisés dans l'accompagnement des pays en post-conflit. C'est plutôt du conseil, à la fois des organismes publics et privés. Et donc, eux, c'est spécialisés de ces environnements-là. Et justement, eux, ils savent faire ça. Ils appellent ça le capacity building en français. Donc, il y a vachement de programmes comme ça, de renforcement des compétences dans ces pays-là. Et donc, eux, ils continuent à faire ces trucs-là. Là, ce qu'on avait essayé de faire avec eux, c'est de se dire, on va être nous-mêmes opérateurs. Et donc, on avait créé une petite structure et dédiée, ça s'appelait Alumna, qui veut dire élève en latin et rêve en arabe. Mm-hmm. Et pour être
d'où
nous-mêmes
alumni.
Opérateurs. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, ces projets-là existent toujours. Mm-hmm. Mais honnêtement, moi, la paperasse onusienne.
Ouais, c'est terrible.
Non, mais tu peux pas imaginer l'effort que j'ai fait.
T'as l'impression que tu montes une banque, en fait.
Mais c'est un truc de dingue. Et tout ce que j'ai eu une note technique. On a fini deuxième, j'étais quand même fier. Et il ne s'est rien passé après. Rien. On a même pas... Donc tu te rends compte l'énergie, la débauche d'énergie pour penser le programme, mobiliser des gens, etc. Et, à la fin... et le deuxième truc où j'avais passé ma vie, c'était pour la Warrior Affairs Commission. Donc c'est les anciens combattants libyens, ils ont 20 ans et pas 80. Et en fait, il fallait les réinsérer. Et donc là, on a fait tout un programme génial pour leur développer des compétences. Donc notamment, on avait choisi, entre autres secteurs, on avait plusieurs, on avait un truc qui était dans le secteur de l'automobile, entretien, réparation. Mmh. Et donc, on a fait tout un programme pour les former à ce métier-là et à la gestion. Et on avait trouvé une, je sais plus quelle enseigne, voulait bien être développer des franchises. Mmh. Le truc était génial. Mmh. Et pareil, je me rappelle avoir présenté devant la commission là, avec tous les drapeaux, les machins et tout. Et puis, c'est rien passé, quoi. Donc, j'avais quand même retenu deux choses. C'est le risque pays que tu apprends en cours. En fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un pays peut ne devenir inefficient du jour au lendemain. C'est ce que j'ai connu. L'aéroport a brûlé, terminé. Et le fait que tu as des marchés plus. Enfin, en fait, il y a des codes. Moi, j'ai voulu devenir une autre personne, me dire, ouais, pourquoi je serais pas bon dans ces environnements-là? Et en fait, j'étais pas bon parce que je sais pas faire ces, moi, je suis plutôt habitué à des cadres fonctionnels où il y a un cahier des charges, tu rencontres un fournisseur, un client, on discute.
Ça se passe comme ça, il y a
un protocole.
Un protocole,
t'avances. Là, si tu veux, c'était un marécage diplomatico-relationnel, économique, etc. Donc, je comprenais plus du tout les leviers, comment je faisais pour faire avancer. Je sais pas si à la fin il fallait faire des petites enveloppes, mais évidemment, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'étais perdu quoi. Et donc ça, je me suis rendu compte que tu peux pas. Il y a un moment, faut t'assumer. Donc je suis pas fils de diplomate qui parle 5 langues et qui est à l'aise dans ces environnements-là. Moi, je me suis construit dans un environnement comme ça. Et dont acte. Après, on peut se transformer et vivre différentes vies. C'est ce que j'essaie de faire. Mais en même temps, il faut aussi se rendre compte que il y a des environnements où on n'est pas adapté.
Bien sûr.
On s'y retrouve pas quoi.
Bien sûr.
Donc du coup après tout ça j'étais lessivé, c'est là où je me suis dit oula, femme enfant ouais. Ma femme est petite, elle gagne sa vie, mais je m'étais dit quand même un petit peu de pression sur le fait de revenir. Puis j'avais 35 ans et j'avoue que j'ai commencé à stresser un peu.
Tu te rapproches de la quarantaine quoi, donc...
Alors c'était sur le fait de plus être employable et
je comprends.
Et le stress de d'avoir fait une série de mauvais choix, de perdre confiance et tout. Je me rappelle, j'avais fait des entretiens, il y a quelqu'un qui m'avait dit raconte-moi ton erreur de parcours et donc je lui avais dit laquelle. mais en gros, je lui ai dit s'il y en a une, c'est peut-être mon premier job chez Lazare entre guillemets, parce que c'était peut-être trop loin de ce que je suis vraiment, même si je suis content d'avoir fait ces années-là parce que ça m'a bien formé. Mais du coup, là, je suis revenu à la case salarié et entre guillemets au chaud, même si du coup, c'était encore un projet entrepreneurial qui a abouti à Utopia. Mais donc, effectivement, j'ai une forme de résilience pour revenir à ton premier propos qui est qu'en fait, j'ai toujours voulu avancer, j'ai toujours mis une énergie de fou dans l'étape en cours et j'ai un chemin de plein d'étapes qui. Parfois, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Franchement, quand des soirs à Tripoli où j'étais en galère, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, à la fin, dans Utopia, j'ai l'impression d'avoir utilisé toutes ces expériences, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a rien qui est perdu en fait.
Non, bien sûr.
Et donc, c'est la fameuse expression là,
de Connecting the Dots.
Ouais. C'est vrai que le fait de se dire à un moment.
C'est Bill Gates qui a Connecting the Dots, c'est Steve Jobs.
Ouais, son discours là, ouais. À Stanford. Mais c'est vrai que le fait de dire. Et ça, c'est un truc hyper important, c'est de dire ok, chaque expérience que je vis, bon, parfois c'est la loose, mais tu dis qu'est-ce que j'en retiens. Et ouais, la résilience, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'en retiens. D'ailleurs, dans l'équipe, ils se moquent un peu de moi. Souvent, je répète plusieurs fois les learnings, les enseignements qu'on a d'une situation ou d'une mauvaise nouvelle pour que ça s'imprime. Et en revanche, après, on avance. Donc, c'est vrai que je suis comme ça. J'ai de l'énergie jusque-là, mais je fatigue un peu, effectivement, de toute cette énergie, toutes ces années, j'avoue. Avec les enfants bas âge et tout, ça pique un peu. Mais j'ai cette énergie de continuer
et d'avancer
malgré des prises de risques et des moments de grande solitude ou des échecs quoi. Donc c'est pas juste de l'énergie qui s'enchaîne qui enchaîne les succès, pas du tout. J'ai vraiment connu des épreuves, voilà.
Alors si pour juste expliquer initialement, donc Autium,
ouais,
c'était un family office.
Exactement, c'est toujours d'ailleurs.
Ok, et ensuite toi, t'as fait une sorte de spin-off. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que 2015, donc c'est Autium.
Exactement. Donc je
et
rejoins.
Et après, t'as créé Utopia en 2019.
Ouais.
C'est une sorte de.
Ouais, exactement. C'est
voilà.
Exactement
enfin,
ça.
Tu t'as sorti en fait l'argent qu'il y avait. Enfin, l'investissement qu'il y avait dans
Utopia. Alors l'équipe plus que l'argent. Donc en gros, effectivement, j'étais salarié d'Autium Capital. On a développé, donc c'est l'argent de Pierre-Edouard Sterrin qui a créé Smartbox. Qui est un type qui a vraiment pas froid aux yeux, qui a une autre, enfin on pourra en parler. Et en tout cas, il m'a fait confiance à un moment où j'étais pas forcément, on va dire très lisible en parcours.
Tu l'as rencontré comment?
C'est marrant dans la vie parce que moi j'aime beaucoup aider les autres. D'ailleurs, c'est mon driver personnel. Mm-hmm. Et de temps en temps, je me dis c'est marrant, je fais qu'aider les autres. Est-ce qu'on m'a aidé déjà? Et j'ai notamment cette personne, qui s'appelle Antoine Loison, qui est quelqu'un qui m'a aidé plusieurs fois dans ma vie à mener des opportunités. À me donner coup de main ou des bonnes vibes. Et il fait partie de ces quelques personnes qui m'ont aidé. Donc lui, il m'a mis en relation.
D'accord.
Voilà, et je l'ai rencontré à un café en face de la gare du Nord parce qu'il habite à Bruxelles. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est très audacieux, qui m'a posé des questions sur mon parcours, ce qui était assez rare de s'intéresser à pourquoi j'avais lancé tel projet, quand ça s'était passé, etc. Et il m'a dit voilà, moi, j'ai pas de thèse là, spécifique. Et donc, c'est au sein de. Donc, je l'ai rejoint. Au début, on regardait un peu ce qui se passait. Et puis, c'est là où je lui ai proposé avec Camille Krivitch, qui est devenue cofondatrice d'Utopia, qui nous avait rejoint en sortie d'école. La thèse de ces marques émergentes engagées, qui était pour moi un mouvement de fond de l'attente consommateur, qui était un sous-jacent qui n'était pas trop couvert par les capitaux disponibles, qui étaient pour les boîtes jeunes plutôt techno que, on va dire, consumer ou monde réel. Et puis qui était en phase avec mes aspirations, parce que du coup c'était des entrepreneurs vachement habités par ce qu'ils voulaient faire. Et donc je cite souvent le premier exemple qui était même cosmétique, qui est un super parcours, mais j'en ai plein, on a 30 en portefeuille. Et donc c'est à ce moment-là, donc là on a investi son argent dans 15 boîtes, et après le spin-off c'est l'équipe donc ça s'appelait Autium Consumer, et a créé Utopia Gestion. On continue à suivre le portefeuille d'Autium, donc l'argent est resté, c'est toujours
c'est
la rente derrière.
En
revanche, on accompagne toujours les sociétés dans lesquelles on investit pour lui. Et en revanche, maintenant, on a d'autres fonds, d'autres portefeuilles. Avec, alors lui, il est aussi investisseur des nouveaux fonds, mais on en a pas mal, on en a 70, je pense, de BPI France, Fonds Européen d'Investissement, pas mal de...
C'est ça, donc en fait, t'es presque reparti à zéro en 2019 pour aller rechercher de l'argent, relever de l'argent.
Et c'est vrai que j'avoue que de temps en temps, quand le Covid est arrivé, qu'il y a eu des... Bah là, en ce moment, c'est quand même une bonne crise avec la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. T'entends, je me dis, mais... C'est fou, mais à chaque fois, tu te remets une barre de pression, un défi.
Non, parce que
pourquoi
finalement,
tu restes pas au chaud, quoi.
En 2019, tu as décidé ça avant le Covid ?
Ouais, c'était fin 2018 la décision. Alors, en gros, Pierre-Edouard avait, à ce moment-là, m'avait dit, écoute, j'ai moins de ressources disponibles pour les prochaines années. On avait déjà investi, je sais pas, 70 millions de sa poche, c'est pas mal. Il m'a dit, là, je sais pas si je vais pouvoir avoir le rythme. Donc, en fait, tu as bâti une équipe et tout. Moi, je peux pas vous garder autant, vous êtes trop nombreux. Donc moi je me suis dit, écoute, je crois à fond à notre thèse, à ce qu'on veut faire, à la limite j'ai envie d'exprimer encore plus la dimension d'impact, etc. Et donc pas de problème, on va partir, on va créer une boîte et on va lever des fonds. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah tu signes ton... Alors j'ai déjà fait une fois, quand j'ai quitté Lazare, j'ai signé tous mes renoncements à tout, là t'es là, ah ouais quand même, ça va être plus dur, enfin c'est reparti pour un tour sans ça. Et là pareil, tu te dis, bah terminer le salaire, voilà, rupture conventionnelle, etc. Tu renonces à plein de trucs et puis c'est reparti. Donc là tu lèves des fonds de zéro, et donc c'est dur, quoi. Il faut parce que la mécanique des fonds, c'est que tu ne peux payer des salaires que si tu as des fonds sous gestion, parce que tu as un pourcentage des fonds gérés pour payer tes salaires. Donc si t'as pas de fonds, t'as pas de salaire. Donc on était tous en rupture conventionnelle.
Vous viviez sur vos ruptures conventionnelles,
comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est Pôle emploi qui nous a payé au départ, et ça a duré quand même un certain temps avant de faire le premier closing, et encore on a fait vraiment étape.
Après.
Alors, on est arrivé à faire un premier closing à 27 millions d'euros en juillet 2019. Donc, c'est
relativement rapide.
Ouais, c'est relativement rapide. Sauf qu'à 27 millions, tu payes pas, ça suffisait pas à payer tout le monde. Donc, c'était quand même assez stressant. Parce qu'en fait, tu n'as qu'un
pourcentage.
Ouais, exactement. Donc, en fait, il y a une taille critique pour les fonds.
D'accord.
Il y a quand même beaucoup de frais liés notamment à la régulation, etc. On doit passer par un dépositaire, enfin c'est des métiers très normés, donc t'as plein de prestats à payer avant même d'avoir commencé. Tu payes tes auditeurs, tes
gens s'en rendent pas compte de ça d'ailleurs.
Ah, ouais,
même
donc,
pour les entrepreneurs qui font rentrer des fonds dans leur boîte, c'est ils ont un peu le même genre de cas de figure quand même, non?
Il y a
beaucoup de paperasse aussi.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est vrai que de temps en temps on a des entrepreneurs qui disent, ah, vous nous gonflez un peu avec vos trucs, mais effectivement nous on est régulé, donc on doit montrer patte blanche, notamment ce qu'on appelle les KYC, les Know Your Customer, c'est des choses de réglementation sur de la lutte anti-blanchiment. Par exemple, on doit connaître tous les co-actionnaires de toutes nos boîtes, pièces d'identité, domicile, etc., pour être sûr qu'on n'a pas des gens qui sont sur Tracfin, qui sont des gens en fraude fiscale ou des gens de la grande criminalité, etc. Donc ça, c'est super pénible de le faire chaque année, mais on est obligé. On a des reportings ESG, des reportings... donc c'est vrai que là c'est hyper lourd. Tu croisais tout à l'heure notre secrétaire général CFO. C'est sûr que c'est le boulot qu'on a sur la partie compliance, elle est énorme. Et donc voilà, donc t'as plein de frais. Donc en fait, à 27 millions, à la limite, c'est le pire, c'est que ça y est, t'existes. Donc tu dois aller au bout.
Mais tu peux pas te payer.
Mais t'es
nowhere
entre guillemets sur. Donc là il faut continuer. Et c'est marrant parce que on a trois valeurs chez Utopia, c'est ambition, transparence, bienveillance. Donc dans la transparence, j'avais choisi de dire où on en était à tout le monde, etc. Et c'est marrant parce qu'après coup, il y a des personnes dans l'équipe qui m'ont dit, mais en fait, j'aurais préféré que tu nous dises pas et que tu nous dises, non mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Et qu'à la fin, tu dis, tadam, on a levé.
Tais-toi et ne viens nous voir que quand c'est le vrai.
Quand c'est fait, exactement. Et du coup, j'ai raconté chaque étape, chaque épreuve. Et en fait, c'est pas forcément, c'était un peu anxiogène potentiellement pour l'équipe. Mais bon, on y est arrivé. Et après, on y est arrivé, ceci dit, on est arrivé, je dis ça, et en fait, non, c'est-à-dire qu'on y est arrivé à lever. Donc, lever, c'est que t'as des gens qui croient ta thèse. Donc, c'est déjà super. Après, il faut savoir le déployer, donc l'investir intelligemment. Et là, effectivement, imagine, on fait le premier closing juillet 2019. Donc, t'as gilet jaune jusque Noël 2019, Covid. Mars 2020 jusque maintenant, guerre en Ukraine. On a en plus sur nos sujets l'iOS 14 qui a changé les règles de tracking, où le digital marketing marche beaucoup moins bien. Enfin, depuis qu'on a lancé notre fonds, enfin, tu peux pas imaginer les chamboulements copernicien qu'on a eu. Et donc, donc on est loin d'avoir fini l'aventure.
Mais t'as quand même levé au total, enfin, vous avez levé au total en décembre 2020, si j'ai si je ne me trompe pas, c'est un closing final à 100 millions d'euros
ouais,
en décembre 2020. Donc depuis, tu as relevé de l'argent.
Yes, alors en gros, on a donc le fonds pour Otium, il fait 85, parce qu'on a continué à investir 85 millions. On a effectivement levé, alors techniquement 92 millions et on avait 8 de co-invest, donc ça faisait 100 effectivement pour le communiqué
de presse
à l'époque. C'était un petit fonds de co-investissement spécifique sur
MyCrime.
Donc c'est 100, tu vois, sur cette thèse. Ensuite, on a effectivement levé un nouveau fonds depuis. C'est pareil, quand je me dis, putain, mais il faut arrêter un moment. En septembre, on s'est lancé sur un nouveau fonds.
Septembre là de cette année.
Exactement. Donc il y a quelques mois. Ouais. En fait, on l'a lancé du coup, on a commencé début 2021. Donc à peine closé le fonds d'Utopia 2. En janvier, on a dit allez, c'est parti, on va faire un autre fonds. Parce que alors du coup, bah là pour le coup, on avait un peu le nez creux entre guillemets, c'est qu'on s'est dit oula, la conjoncture va peut-être pas être porteuse aussi longtemps et donc on va lancer un nouveau produit de financement qui est un produit un peu moins risqué entre guillemets pour les investisseurs qui est quelque part entre la dette et les fonds propres pour ceux qui connaissent un peu les termes. Et donc c'était une idée qu'on a du coup travaillé quelques mois et on a fait un premier closing en septembre et donc ça s'appelle Utopia Preferred, c'est autour des actions de préférence techniquement. Et donc ce fonds, donc du coup à nouveau je suis enlevé, mais effectivement typiquement en ce moment c'est hyper dur de lever parce que la conjoncture est très mauvaise et les investisseurs sont très
Tu peux juste expliquer pourquoi t'as fait ça, c'est-à-dire que quand tu me parles de entre la dette et les fonds propres, juste dans des termes qui sont relativement simples, mais quel est l'avantage compétitif par rapport aux autres de faire ça?
Alors donc il faut regarder deux côtés, donc côté entreprise et actionnaire, fondateur. L'avantage, c'est que c'est un produit qui ne prend pas de part en capital, puisqu'en gros, ça se rembourse avec un taux contractuel. Donc, c'est plutôt comme un emprunt.
Un emprunt.
Sauf que t'es quand même en action, donc tu n'as pas de ce qu'on appelle de maturité. Un emprunt, on vous dit, c'est 8 ans. Mm-hmm. Et donc, soit tu l'amortis chaque année, soit tu le rembourses à la fin. Ça s'appelle in fine.
In fine ou linéaire.
Voilà. Mm-hmm. Mais il faut bien, il y a une maturité. Mm-hmm. Puis il y a des intérêts chaque année. Mm-hmm. En général, il y a des commissions, etc. Mm-hmm. Nous, on est. Et puis au bilan, t'as une dette, quoi. Mm-hmm. Alors que nous, on est dans les fonds propres. Donc, au bilan, t'es dans la partie capital et t'es pas dans la partie dette. Ensuite, on n'a pas de maturité. Après, on a un pack d'actionnaires, etc. Mais. Et ensuite, notre taux, il est prioritaire, contractuel, mais il est sur la sortie et il n'est pas payé chaque année.
D'accord, donc tu payes à la fin.
Payes à la fin. Mmh. Et donc tu es un actionnaire qui prend un risque d'actionnaire, mais tu es le premier servi à un taux contractuel. Mmh. Donc pour l'entreprise, c'est une manière de se financer qui est renforcement des fonds propres, donc préservation.
Ce qui peut après apporter énormément d'avantages. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de l'importance des fonds propres.
Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Pour le, toutes
notamment par rapport à la BPI où tu as besoin d'avoir des fonds propres.
Exactement. Tes relations bancaires, des subventions, BPI, etc. Même avec tes clients, avec tes fournisseurs, les gens regardent ton bilan, donc c'est vachement important. Mmh. Et donc après c'est ce qu'on appelle un effet levier pour ceux qui ont envie de creuser, c'est que le rendement que nous on prend, il est inférieur au rendement visé par le projet, par le business plan de la boîte. Donc normalement si la boîte performe, entre guillemets, nous on va leur faire un effet levier, c'est-à-dire que nous on va prendre qu'un rendement capé, donc plafonné. Et le reste, c'est pour les autres actionnaires. D'accord. Et donc, quelque part, ils vont faire plus que le rendement du projet, parce que nous, on va prendre moins que le rendement du projet. Sinon, pour ceux qui veulent creuser, il faut regarder le vernis mène, le bouquin de finance sur l'effet de levier. Mais en gros, c'est juste que on prend moins que le rendement global du projet.
Très connu ce livre, d'ailleurs.
Pardon?
Le livre, exact. Enfin, tu fais bien de le noter, ce livre, en fait.
Le vernis mène?
Ouais.
Alors, c'est un gros pavé, mais c'est sûr qu'il est extrêmement bien fait.
Je l'ai pas lu en entier, je te cache pas, mais je sais que c'était la Bible de pas mal de gens. Enfin,
il est incroyable, ce bouquin. Donc, ça explique toute la finance. Et donc ça, c'est l'avantage pour l'entreprise. Et pour les investisseurs, tu as un rendement, qui est, quand même satisfaisant avec un niveau de risque. Enfin, de toute façon, la finance, si on devait la résumer, c'est un couple risque-rendement.
Bien sûr.
Ouais, c'est ça la finance. Mm-hmm. Et donc là, tu as un rendement qui est intéressant pour le niveau de risque pris, puisque finalement, tu es le premier servi des fonds propres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vends la boîte ou que tu verses un dividende, si jamais la boîte est rentable et peut se le permettre, tu es le premier servi avant les autres actionnaires. Donc tu as un risque moindre. Mm-hmm. Voilà, donc
Merci. Merci pour ce cours magistral. donc excuse-moi, je t'ai coupé dans ton développement, mais tu parlais de cette distinction, tu vois, cette petite différence, quoi, qui est une grosse différence. Et du coup, on parlait
des montants de situation. Donc on a levé 30 millions sur le premier closing. On bosse en ce moment pour faire le deuxième dans un contexte qui est moins porteur, même si le produit, je pense, est assez pertinent. Et donc au total, on gère, je crois, 225 millions.
C'est ça. Donc en gestion actuellement, c'est ça.
Ouais.
Ok. Tu dors la nuit?
Alors, hier soir, non, j'avoue que j'ai bossé. En fait, comme je suis vieux maintenant, là j'ai bossé jusqu'à minuit, du coup je me suis endormi à 1h30 parce que j'avais trop de trucs en tête. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un, je disais en plaisantant tout à l'heure, c'est un sujet. On parlait de la liberté, c'est marrant, c'est que quand t'es libre, en fait, il y a une forme de poids à cette liberté qui est associée, du coup, et une forme d'incertitude, etc. Et en fait, quand tu as créé comme ça des choses avec beaucoup de contreparties, t'as une autre forme de contrainte. Ouais, ouais. Et donc, les deux, je sais pas si je peux les comparer, mais en tout cas, je sens, finalement, je crois que depuis toujours, je suis à fond, un peu pas torturé, mais enfin, à me questionner. Et je dors pas hyper bien, je me fais des réveils, donc je peux pas dire que... Donc une fois c'est pour savoir ce que je vais faire le lendemain pendant ouais. le voyage, et là c'est pour savoir comment gérer le contexte, mais j'ai toujours eu un peu ce côté à fond physiquement et psychologiquement.
Bah c'est tout à ton honneur hein, finalement.
Bah, c'est un peu épuisant, je pense que ma femme en a un peu marre. Ah bah, pour l'anecdote, mes deux aînés l'autre jour prenaient, tu sais, les petites fleurs où on souffle là pour faire des vœux.
Ouais.
Et ils ont dit à ma femme que leur vœu c'était que je sois moins préoccupé et plus disponible. Donc
ils ont raison.
Ils ont complètement raison.
Si je peux permettre, ils ont
mais
raison.
Carrément. Et pourtant, j'essaie d'être vachement là. Franchement, je fais tout ce que je peux et je suis un père qui adore être père. Donc, je ne vois pas comme une contrainte. Mais ça m'a marqué. Je me suis dit, si les deux, on dit ça comme veut, c'est que c'est
pas. Il faut les écouter. Il faut écouter nos enfants. Les secteurs d'Utopia, en fait, de prédilection, je pense que tu es quand même sur ce qu'on appelle de la consommation, enfin,
oui.
C'est sur toutes les verticales qui vont être liées à la consommation. Donc, ça va être de la cosmétique, ça va être de la food,
oui.
Ça va être de la mode aussi, oui. Je crois.
Alors, justement, la mode.
Un peu moins.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours un petit problème avec le secteur. En plus, c'est le deuxième secteur le plus polluant après les hydrocarbures. Donc, on a eu un investissement d'une société.
C'est pollen. Non, c'est alors, pas... enfin, ça, c'est
exactement.
De la maroquinerie.
Oui, t'as raison. Alors, tout à fait, j'allais dire Organic Basics, c'était plutôt les sous-vêtements avec une démarche vraiment hyper éco-responsable. T'as raison, pollen est dans les accessoires de mode, puisque dans la maroquinerie. Un succès incroyable, on est rentré vraiment au tout début. Et
c'est vachement beau et c'est de la bonne qualité.
Ah bah justement, en fait, ce qui nous a plu.
C'est pas de pub.
Non, mais c'est vrai, en fait, ce qui nous a plu dans le projet. Globalement, en fait, ce qu'on sait toujours se dire, c'est est-ce que la proposition de valeur est juste et forte. Et notamment, je me rappelle, on avait des débats, il y a des boîtes où on n'a pas voulu avancer parce qu'on trouvait que la marge brute était trop élevée. Alors là, ça va faire hurler si mes investisseurs m'écoutent. Vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Mais c'est que quand la marge brute est trop élevée, tu peux te dire, mais en fait, la marge brute, c'est donc la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Mm-hmm. Tu peux dire, mais en fait, le consommateur se fait avoir. Il n'y a pas de raison.
Bah, c'est le cas de la grande distrib.
Comme on dit en anglais, il n'y a pas de free lunch. Bah, alors, en l'occurrence, la marge à la grande distrib, elle est extrêmement faible. Hein. Les distributeurs prennent très peu de marge. Là où ils gagnent, en fait, la grande distrib, c'est des banques. Et ils gagnent leur vie sur le décalage entre ce qu'ils encaissent des clients et ce qu'ils payent aux fournisseurs. Mm-hmm. Et en fait, c'est des gens qui encaissent l'argent tôt et qui le placent. Faut voir un Carrefour comme un. Les grands, on va pas donner de nom, les grands distributeurs, comme des gens qui sont plutôt des gestionnaires de cash que des gens qui font.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'aboutissement, c'est que souvent tu te retrouves avec une patate à 90 centimes, tu te doutes bien que derrière.
Ah oui, alors c'est toute la chaîne.
Voilà.
Oui,
c'est toute la chaîne qui est impactée.
Du coup, effectivement, c'est là où tous les nouveaux circuits sont intéressants. Mm-hmm. Mais le dernier maillon est pas tellement, la marge est pas tellement, ils doivent prendre peut-être 30% de marge, pas tellement plus. Donc effectivement, on se dit toujours, est-ce que la proposition de valeur est forte? Et dans le cas de pollen, on s'est dit, le produit est incroyable en qualité. La marge est complètement OK, à la fois pour que le business soit tenable et pour que le conso s'y retrouve. Et il y avait une touch aussi dans le design. Et puis, on était allé visiter les ateliers en Espagne avec Camille. Et on était fascinés par le savoir-faire et tout. On s'est dit, mais le produit est fabuleux. Et il y a une vraie proposition de valeur client, notamment permis par ce qu'on appelle le direct consumer. Donc ça, c'est un projet où on les a un peu challengés sur le côté durabilité. Donc leur première réponse, c'est de dire que le cuir, c'est déjà une chute de la filière animale, donc c'est en soi c'est déjà une forme de upcycling. Et puis par ailleurs, ils ont vachement progressé. Là, ils vont bientôt lancer un sac avec du cuir végétal avec une super start-up américaine. Donc ils sont voilà, ils ont.
Ce que je voulais dire, c'est que souvent, c'était pas la grande distribution le terme que je voulais dire, c'est du mass market au sens, tu vois, quand tu as une marque de mode.
Oui,
vend un produit à 140 euros alors que le prix de revient c'est 4
bien
euros
sûr.
Ou 2
fait en
même,
Asie
voilà.
Par des usines
c'est en ça j'ai mal utilisé le terme grande distrib, mais c'était plutôt des marques gros retail, grande expansion, etc. Alors que quand tu décides d'être plus confidentiel comme Véja, enfin tu vois, enfin c'est pas confidentiel Véja, mais voilà, de pas non plus devenir mondial, même si aujourd'hui je pense qu'il l'est quand même.
Mais alors c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, donc je te dis, on a trois valeurs, c'est ambition, transparence, bienveillance. On a déjà parlé de la transparence là. Sur l'ambition par exemple, on se posait des questions sur justement jusqu'où on veut poser le curseur.
Ça, parce que je voyais quand même dans tes critères, tu vois, d'investissement, que il y avait une capacité à se développer, c'est-à-dire que tu as, je crois, capacité d'autofinancement, capable de se développer, capable de servir du rendement à leur actionnaire.
Ouais.
Donc ça, c'est des critères qu'on comprend, tu vois, mais dans la capacité de se développer, c'est quoi se développer aujourd'hui? Enfin, c'est une vraie question,
Une question. Déjà, d'un point de vue écologique, tu as deux grands types d'entreprises. Tu as les entreprises avec des externalités positives et celles qui ont des externalités négatives. Donc, externalités positives, c'est-à-dire quand on fait, d'un point de vue impact, quand on fait 1 euro de chiffre d'affaires, c'est 1 euro qui est bénéfique pour la planète. Donc, par exemple, on a nous Anti-Gaspi qui vend les invendus de l'industrie agroalimentaire, ou Murphy qui répare plutôt que de pousser au rachat d'électroménager. Dès qu'ils se développent, ils ont une externalité positive. Donc là, tu n'as pas de débat. Plus nous on est à fond, plus on se développe, plus on est content, et il n'y a pas d'effet secondaire négatif. À l'inverse, dans tous nos produits qui ont du neuf, qui produisent, etc., toutes nos marques, on peut se dire, attends, est-ce que la croissance de cette boîte, elle a du sens écologique, sociétal, etc.
Et c'est ça.
Et jusqu'où on veut aller, notamment Cyril qui est à New York, dont on parlait tout à l'heure, il nous avait parlé de son expression du grand déménagement. Et effectivement, le fait de savoir que les produits traversent les océans pour être vendus et à limite revenir là où au départ il y avait le matériau initial, etc. Enfin, il y a un côté complètement absurde à la mondialisation, à tout ce transport. Et en plus, à titre perso, j'ai une forme d'ambition qui m'a motivé dans toutes ces années, mais à chaque fois, mon ambition, elle n'était pas forcément de faire un truc énorme avec des conséquences matérielles, pécuniaires, etc. C'était plus la volonté de bien faire, mais avec une ambition, je dis toujours que j'ai une ambition raisonnable, entre guillemets. Et donc, j'ai pas tellement. Mon but, c'est pas de faire une licorne. Enfin, je m'en fous complètement en soi. C'est juste, est-ce que j'accompagne des boîtes qui font des choses dont je suis fier et qui servent quand même du rendement, tu le soulignais, à mes actionnaires, parce que mes investisseurs, parce que pour le coup, sinon, enfin, il faut que je réponde à l'attente qu'ils ont. Donc, je leur ai vendu une double promesse. On leur a vendu une double promesse, un rendement financier et un rendement d'impact. Donc, par exemple, maintenant, on mesure avec l'outil qui s'appelle Zeil l'impact de chaque boîte. Et
c'est quoi comme outil? C'est vous qui l'avez mis en place?
Non, c'est Founders Future qui l'a financé. C'est un SaaS, un software qui permet de faire une évaluation 360 de l'impact des boîtes. Et en fait, ce qui est super intéressant...
Il était temps parce que finalement, à chaque fois, on parlait de ces... Enfin, ça fait 4 ans que je fais ce podcast et c'est vrai qu'on a souvent parlé de mesures d'impact.
Ouais, c'est l'enjeu. C'est...
Si tu connais les 3 notions d'impact. Tu as envie d'avoir un truc assez concret.
Exactement. L'impact, c'est 3 choses. C'est l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure. Donc, il faut avoir envie de faire quelque chose.
Additionnalité?
C'est intentionnalité. Il faut vouloir faire quelque chose. Additionnalité, il faut le faire. Et mesure. Et donc, effectivement, jusque-là, dans les rapports ESG, on disait, ah bah, telle boîte a mis un mur végétal.
C'est
random.
C'est totalement subjectif.
Exactement.
Enfin...
Donc, maintenant, ces outils-là, ils sont 360. Et donc, par exemple, si tu es super sur, je dis n'importe quoi, tu utilises de l'énergie verte, mais à côté, tu es une ordure sur ta gestion du personnel,
c'est ça.
Et bah, c'est noté. Donc, par exemple, si tu n'as aucun salarié actionnaire, si tu n'as pas de comité, enfin de travail sur le bien-être salarial, etc., tu vas être noté. Donc, cet outil est génial parce que du coup, il est 360.
Et puis après, j'ai presque envie de dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Parce qu'une fois que c'est noté, une fois que c'est vérifié, tu vois, c'est quoi la suite?
Et c'est pour ça. Donc, voilà. Additionnalité.
Ouais.
Et mesure. Donc, du coup, nous, nos boîtes, on les mesure chaque année. Donc, maintenant, dans notre rapport, ce soir, cet après-midi, on a notre comité de mission. Donc, on est entreprise à mission.
Entreprise à mission.
Et Bicorp. Donc, c'est après, on a notre comité de mission, au sein duquel il y a des représentants extérieurs, des représentants de notre portefeuille, etc. Et là, on leur présente, du coup, là où on en est. Et donc, là, au 30, je crois que c'était fin mars, toutes nos boîtes ont dû faire la notation Zeil. Et à partir de maintenant, on va le faire chaque année. Et on va leur dire, t'as pas progressé.
T'étais à 106,
faut passer. Et on a une obligation morale de leur part de se bouger. Et en fait, moi, j'ai...
Oui, mais s'il n'y a pas de sanction... Enfin, excuse-moi, je suis un peu pushy, mais...
Alors, plusieurs trucs.
Ouais.
L'outil est génial parce qu'en fait, il est transparent. Donc, en fait, si tu vas... N'importe qui peut demander la notation Zeil d'une de nos boîtes en portefeuille. Il peut regarder, il l'aura.
Moi, je peux le faire.
Alors, j'imagine qu'il faut te loguer, mais en tout cas, c'est visible. Donc, tu as un côté transparent. Donc, déjà, il faut assumer ta note. D'accord. Tout, ensuite, tu t'es comparé à tes pairs, donc tu sais ce que la note
les
de tes
font.
Autres exactement. Donc si t'es moins bien, ça a quand même un petit côté, t'as envie d'être best in class. Ça a quand même des incidences. Il y a des banques qui commencent à dire, moi je prête aux sociétés selon leur selon la note, etc. Mmh. Et moi je leur dis toujours, à la fin, si c'est pas la grande cause qui les anime, mais des choses plus matérielles, je leur dis, en plus, vous serez mieux valorisé dans quelques années si vous êtes une super boîte. Parce que tous les fonds qui se lèvent en ce moment sont des fonds dits d'impact. Mmh. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont vraiment de quoi justifier la qualification de boîte à impact. Donc si dans 3 ans, ça fait 3 ans que tu as une notation ZAI qui fait que progresser, que tu as fait ton bilan carbone.
Tu peux intégrer ce fonds.
Bah oui, tu dis, regardez, moi je progresse, voilà ma roadmap et tout. Et dernier truc, c'est que, mais complètement d'accord avec toi, à la fin, c'est pas, si tu as ni carotte ni bâton, c'est pas évident. Donc par exemple, le nouveau fonds Preferred dont on a parlé rapidement tout à l'heure, le taux de rendement contractuel, il peut être baissé si la boîte atteint sa roadmap
ESG,
son objectif. Donc en gros, nous on donne la carotte, on dit si c'est bon, si tu atteins tes objectifs, nous on te demandera moins de rendement. Pas mal. Donc
d'accord, donc il y a un objectif, quoi. Enfin, il y a quand
une
même
conséquence,
une conséquence.
Mais ça c'est sur le nouveau fonds, avant on
d'accord.
l'avait pas théorisé.
Okay.
Donc
mais c'est important de communiquer là-dessus. Tu vois, parce que finalement ce serait pas idiot que tout l'environnement, tu vois, de la finance green, ou je sais plus quoi, finance...
Tu prends convaincu. Bah, tu sais, au début, quand on a pensé à la mission d'Utopia, moi, j'avais proposé remettre la finance dans le monde réel, parce que j'en étais vachement revenu à mon break et tout, et je pensais vraiment à la crise de Lehman, pour ceux qui l'ont vécu, je me suis dit, mais la financiarisation de l'économie, mais c'est l'enfer. Donc vraiment, je pensais que la finance était devenue mal par la manière avec laquelle on l'exploitait. C'est quand même, ça reste un outil de financement de l'économie, donc si c'est bien fait, c'est quand même utile. Et donc moi j'avais un énorme problème avec la finance, et je m'étais dit, le combat d'Utopia, c'est remettre la finance dans le monde réel. Donc mes associés venant moins de là, ça leur parlait moins, donc notre raison d'être, c'est pas celle-là, mais à titre personnel, c'est un peu mon combat. Donc effectivement, je prêche, la semaine dernière par exemple, on était à l'accélérateur BPI sur les sociétés de gestion, on a présenté Utopia, j'ai fait mon petit laïus, et il y a eu des petits mots derrière de gens qui ont dit, ah ouais, mais c'est vrai que ça donne envie de se bouger. On a donc je garde un peu ce petit côté bâton pèlerin. Après, on a officialisé le fait qu'on donnait une partie de notre caride à une fondation. Ça, c'est bête, mais si tous les fonds de la place donnaient, nous, on donne 5%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup.
À qui ?
À la fondation Make.org Foundation,
d'accord.
La partie fondation de Make.org.
D'accord.
Qui finance des grandes causes. Mmh. Si tout le monde faisait ça, franchement, ça ferait un bon pactole pour la philanthropie.
Ouais.
Et parce que moi, un des trucs que je trouve pas normal, c'est la répartition de la valeur dans la finance est beaucoup trop captée par déjà ceux qui ont déjà de l'argent, qui sont les gens qui investissent dans les fonds, plus les gérants qui se prennent des énormes parts de plus-value. Franchement, par rapport à ce qui reste aux entreprises, au reste de l'économie de la société, c'est insuffisant. Donc, et la fiscalité est hyper avantageuse. Donc, franchement, c'est insuffisant. Donc, moi, un de mes combats, c'est... bosser là-dessus. Donc on prêche, moi dès que je peux, c'est pour ça d'ailleurs que je fais un peu de com entre guillemets. Après je fais gaffe parce que t'as pas envie d'être donneur de leçons. On fait pas tout parfaitement dans notre boîte, dans notre portefeuille. On pourrait dire, ah bah celle-là, c'est quoi son impact? Et d'ailleurs on s'est posé la question, on avait fait un article sur la fin de l'homo consumatus et toutes nos boîtes, on disait ce qu'elles faisaient. Il y a certaines cases qui étaient vides, donc on sait très bien qu'on fait ce qu'on peut.
Oui, mais c'est pas gênant. C'est toujours pareil. C'est dès lors qu'il y a une prise de conscience, si tu veux, et que tu vas dans le bon sens, t'acceptes un peu plus tes failles. Enfin, tes failles, entre guillemets.
En tout cas, depuis le début, on essaie d'avoir ce côté humble qui est vraiment intrinsèque à notre ADN. Et donc, on n'est pas donneur de leçons. Mais c'est quand même, franchement, l'exercice de la communication, c'est pas simple. On en parlait tout à l'heure. Tu peux te reprendre un retour de bâton, tu peux avoir des choses qui peuvent être mal perçues. Donc après, c'est vrai que je pense qu'on est assez authentique.
Tu
dans
parles
ce qu'on
de
fait.
Greenwashing ou de choses comme
ça. Ouais, exactement. Ouais. Tu fais ça, mais du coup, c'est quoi ton rendement? Parce qu'effectivement, à la fin, tu peux faire les choses très bien, mais si tu performes pas financièrement, ça veut dire que t'es dans un autre monde qui est très bien.
C'est le monde associatif.
Mais, voilà, associatif, philanthropique, etc.
Ouais.
Donc vouloir, comme on veut le faire, avoir les deux jambes, impact et business. C'est un vrai défi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est loin d'être arrivé parce que du coup, il faut qu'on montre dans la durée qu'on y arrive. J'y crois, mais là, comme on disait, on ne cesse d'enchaîner les crises ou les moments uniques jamais connus dans l'histoire. Donc, on verra dans la durée. Et donc, c'est communiquer quand t'as pas encore délivré dans la durée et que t'as pas montré que t'avais tenu tes promesses. C'est limite. Donc, après, en revanche, raconter les drivers personnels, ce qui nous habite, la vision qu'on a, si ça peut donner l'envie à d'autres de faire un peu la même chose, de réaiguiller un certain nombre de paramètres, notamment dans la finance, ou même dans l'entrepreneuriat, c'est cool, c'est déjà ça de gagner, quoi.
Je sais qu'il y a tous tes partenaires de vie professionnelle qui t'écoutent, mais est-ce que selon toi, donc tu vas pas me dire non, je claque la porte et je repars en Libye, mais selon toi, Utopia, c'est vraiment un projet de vie là pour le coup, ou c'est où t'as une ambition, en fait, t'es long-termiste là pour cette fois-ci?
Alors c'est marrant parce que j'ai un des LP qui m'avait dit, est-ce que c'est le projet de ta vie? LP, ça veut dire Limited Partner, ouais. C'est les gens qui investissent dans le fond. Il m'a dit, est-ce que c'est le projet de ta vie? Donc j'ai dit, ah ben, complètement. Donc il m'a dit, ok, je peu importe le reste, je fais pas d'autres questions, je signe. Donc je l'ai déjà dit, donc s'il m'écoute, je lui confirme. Non, alors c'est, je pense que j'ai enfin trouvé mon point d'équilibre. C'est-à-dire que tout ce qui m'anime, j'ai toujours aimé les belles choses, le design, les trucs aboutis, beaux, le lifestyle et tout. J'ai toujours été en quête de sens et à questionner le monde. Dans ma famille et dans mon entourage, j'étais connu pour être un peu le relou sur la consommation, le fait de pas aller au soleil l'hiver parce que le soleil c'est l'été. Voilà, c'est questionner un peu nos habitudes et remettre en cause un peu le système, ça a toujours été mon driver. Donc là, j'ai l'impression d'être un tout petit peu acteur de ce changement. Après, je pourrais être plus jusqu'au boutiste. Donc, en tout cas, ça fait partie d'Utopia. Donc, il y a mon métier que techniquement, je pense, je maîtrise assez bien. Il y a le sens. Il y a le fait que je suis entouré d'entrepreneurs. Et c'est surtout ça mon truc number one. C'est le fait d'être entouré de gens qui ont la pêche, qui ont du talent. Ça, c'est extraordinaire.
Et puis, toi-même, t'es entrepreneur, finalement.
Ouais, ouais, exactement. Du coup, ouais, mais j'ai le même problématique que, hein. Je dois convaincre des tiers, recruter, animer une équipe. Ouais, exactement. Construire une marque. Et donc, et après, ce côté un peu lifestyle, brandé, etc., c'est aussi des choses qui m'ont toujours animé. Donc, dans le projet Utopia, je dirais que j'ai à peu près tout. J'aimerais bien faire une petite expérience en famille à l'étranger. Donc, si dans la construction de l'aventure Utopia, j'arrive à passer un peu de temps en Italie, puisque j'y avais pas pu il y a 20 ans, je le ferai. Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que je trouve ça lourd, entre guillemets, de me dire, oh, j'ai embarqué. Enfin, de temps en temps, je me dis, mais merde, j'ai trop d'énergie, quoi. Parce que j'ai embarqué 86 heures, 220 millions de US, 30 boîtes, on est 11, un peu avec différents endroits dans le globe. Je me dis, oulala, tout ça.
Ah, ben, on peut plus être léger, à nos âges.
Non, mais c'est vrai. Non, mais surtout, de temps en temps,
si
je me dis,
léger,
mais attends.
C'est peut-être un problème.
C'est un problème. Mais surtout, quand c'est pas ton argent, en plus. Non, mais du coup, de temps en temps, je me dis, mais oulala, j'ai embarqué tout ça. Finalement, j'ai une confiance en moi qui est comme tout le monde. Elle est fragile et elle dépend des moments. Et donc, je me dis, de temps en temps, waouh, est-ce que j'étais pas mieux plus, à l'époque, seul, en n'engageant que moi, sans aucune contrepartie? Et donc, c'est une solution de facilité. Donc, de temps en temps, quand il y a énormément de pression, j'avoue que ces derniers mois, avec la conjoncture et tout, j'avais vraiment des insomnies en disant, voilà, mais c'est comment on va gérer toute cette période. Donc, je trouve ça dur à gérer. Après, je suis persuadé quand même que je fais quelque chose qui me ressemble avec des personnes que j'apprécie. Je suis hyper fier de tout ce qu'on a bâti. J'ai la volonté d'être à la hauteur de toutes ces attentes parce qu'il y a quelque chose de sympa autour d'Utopia. Donc, j'ai beaucoup de retours extérieurs positifs et de temps en temps, je leur dis, ouais, bah attends, il va falloir délirer. Donc, ça me pèse. Mais là, en ce moment, je rêve pas d'une autre vie. Je comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien alléger un poil pour être plus dispo mentalement pour la famille. Notamment le soir, le week-end et tout. Mais ça, je ne sais pas si c'est possible de vraiment alléger la charge mentale. Il faudrait qu'on... Voilà. Peut-être dans la durée, en répartissant mieux. Peut-être en baissant un niveau, pas l'ambition, peut-être l'ambition ou le nombre de trucs qu'on lance. Il faut que je me calme un peu.
En parlant de ça, justement, parce que je pense que dans mon audience, les gens connaissent assez bien, mais vous êtes investisseur dans My Cream, je préfère le préciser, dans Feed.
Ouais.
Donc dans Pollen, on en parlait tout à l'heure, dans Même, qui est une marque de cosmétiques pour les femmes ayant subi
traitement anti-cancer. Ouais.
Teddy Bear, donc il y en a beaucoup. J'appelle tout le monde à aller regarder là où vous êtes investisseur parce que finalement c'est assez public. Aujourd'hui, tu recrutes encore. Enfin, vous en êtes où là? Vous avez besoin de réinjecter de l'argent dans des boîtes? D'injecter.
Ouais. Alors, du coup, chaque boîte a un peu son stade de maturité. Donc, il y en a qui sont déjà rentables et autofinancés. Donc, là, il n'y a plus besoin de les financer. Il y en a qui sont encore dans la phase de croissance et donc d'investissement. Donc, ils ont besoin de remettre de l'argent. Ce qui est sûr, c'est que dans un contexte là, en ce moment défavorable, c'est des moments très durs pour eux et pour nous aussi, du coup, indirectement, parce que le marché aujourd'hui des capitaux est compliqué, la bourse est bien en baisse, les fonds early stage, j'en ai parlé tout à l'heure, sont quand même plus orientés technologie que nos biens et nos services tangibles du monde réel qui font un peu peur dans un contexte d'inflation et tout. Donc il y a ce défi pour un certain nombre de boîtes de se financer. Donc ce qu'on appelle dans le jargon le runway, c'est la durée de vie que tu as à compte tenu de ce que tu perds chaque mois et de ce que tu as en banque, et ça peut être assez anxiogène. Après, bah nous on est là pour ça, pour travailler ça, trouver les bons partenaires. Donc en ce moment, la priorité de l'équipe, c'est trouver les bons partenaires pour nos boîtes.
Pour les boîtes actuelles, pas des nouvelles.
Ouais. Ah oui, alors ouais, on continue à regarder là. On va en Allemagne demain voir une boîte qui est géniale dans la. Bah, on en parlait justement dans la fashion, qui est dans la circularité. C'est un concept absolument génial qui correspond complètement à notre triptyque bon pour soi, bon pour la planète, bon pour la société. La boîte est fabuleuse. J'espère qu'on va y arriver. Donc on continue un peu à investir, on accompagne nos boîtes, et puis ensuite il faut qu'on sache les céder. Donc on a fait un certain nombre d'opérations par le passé, là on a quelques opérations prévues je pense fin d'année, notamment auprès d'industriels, ce qui serait pour nous une super preuve de la qualité de ce qu'on a fait, puisque ça veut dire que des gens du secteur, des stratégiques estiment que nos boîtes sont dignes d'intérêt, donc ça serait un beau marqueur de succès. Donc voilà, selon les boîtes, on en est au stade de la consolidation, le début. On a encore des boîtes très très jeunes, des boîtes qui sont déjà matures, des boîtes qui préparent leur sortie, donc on chôme pas.
J'en doute pas. Mais on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'après c'est intéressant de savoir comment se mute un fond comme le tien, tu vois ce que je veux dire, enfin quelle est la rythmie, à quel moment on se dit attends, là il faut qu'on investisse davantage, il faut qu'on retrouve des portefeuilles, enfin
alors
tu vois, c'est, je trouve que c'est intéressant quand même de savoir comment vous fonctionnez au quotidien. Mais
en tout cas, il faut savoir que tu as, selon ta nature de fonds, tu as plus ou moins ce timing imposé, juste pour la connaissance générale. Donc, tu as des fonds qu'on appelle evergreen qui n'ont pas de durée de vie. Donc, au départ, je voulais faire ça, mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'investisseurs qui acceptent ça. Donc, du coup, on a un fonds plus régulé, et c'est des fonds qui ont 10 ans. Et dans les 10 ans, tu as 5 ans de perte d'investissement, 5 ans de désinvestissement. Et donc, du coup, c'est assez clair. Tu as 5 ans pour investir, donc tu suis ton rythme. Donc, là, par exemple, on est à 2 ans et demi du fonds et on investit 50%. Donc, on est pile dans le truc. L'intérêt de faire ça aussi, c'est ce qu'on appelle le vintage, c'est que si tu mets tout ton argent une année, imagine tu mets tout en février 2020, boum, en retail, t'es mort. Donc c'est important d'étaler pour intégrer tout ce qui se passe. Donc là, par exemple, le marché est moins porteur, probablement les valos sont moins bonnes, la valorisation d'entrée, c'est vachement important qu'une partie de ton portefeuille soit fait du coup. Voilà, c'est ça la rythmique. Donc du coup, tu dois déployer en fonction des timings de tes fonds officiels, du marché. Ensuite, tu fais attention à la répartition par secteur, par stade de maturité, par géographie. Donc on suit tout ça, nos petits camemberts pour voir la répartition. Et puis le ticket moyen, etc. Ce qui est un enjeu pour nous, le nombre de lignes. Et voilà. Et après, pour la sortie, quand tu penses que le marché, c'est le bon moment par rapport à ce que tu es capable de faire toi, ou quand t'as dans un cas, on a 7 industriels qui nous ont appelé à propos de la même marque, on se dit bon, c'est peut-être le moment du coup. C'est rare d'avoir autant de chalands. Voilà, c'est ça la gestion d'un portefeuille. Tous ces paramètres.
C'est passionnant. En tout cas, tu as une manière de vulgariser les choses qui sont quand même très intéressantes. Antoine, on va arriver à la fin de notre entretien. Je pose toujours les mêmes questions en fin d'entretien, mais j'ai décidé depuis peu d'en rajouter une.
Ah.
Donc, avec toi. On va commencer avec toi. Donc, c'est un coup de cœur. Ouais. Coup de cœur, coup de gueule. Ta vision de la France. Je les pose comme ça d'affilée parce que souvent, tu as des gens qui mixent tout en même temps. T'as des gens qui n'ont pas de coup de cœur, pas de coup de gueule et pas de vision de la France. Hein. Tout est possible. Hein. Tu peux me dire non, joker, j'ai pas envie de répondre. Et la quatrième maintenant que j'ajoute, j'avoue parce que je suis maman et que quand je rencontre des profils exceptionnels comme le tien, je pose une question de parent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai un peu le sentiment que les parents sont toujours en questionnement à l'égard de leurs enfants, ce qui est normal. Mais peut-être un conseil de parent, tu vois? Donc t'es pas obligé de répondre encore une fois, mais encore une fois tu fais l'objet de t'as raison, t'es un peu un cobaye sur cette question-là. Mais voilà, est-ce que tu auras un coup de cœur? Un coup de cœur, ça peut être, je sais pas moi, un de tes investissements récents, peut-être une rencontre, un film, une série, un voyage, peu importe, un livre. Coup de gueule, ça porte bien son nom, mais encore une fois t'es pas obligé d'en avoir. Et puis, vision de la France, ça n'est pas politique.
Et un conseil de parents.
Ouais.
Alors, sur le rôle de père ou de parent, bah, comme je disais tout à l'heure assez rapidement, on a été confronté à nos enfants qui avaient des sujets de psychologie assez forts, et donc c'était hyper dur. Et donc le fait de, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le parcours et le regard social, c'est essayer d'être des parents qui assument entre guillemets leur famille, ce qu'ils sont et leur manière de faire, et pas trop subir le regard social. Donc je l'ai vécu à l'époque, et tout le monde sait que c'est hyper dur, son emploi, etc., sa vie sociale, l'image qu'on renvoie, c'est hyper dur de l'assumer. Et je trouve qu'en tant que parent, pour avoir vécu des scènes hyper dures où on se sentait jugé, etc., c'est des moments vraiment de... Et limite, t'as envie... je me suis retrouvé parfois... à me comporter vis-à-vis de mes enfants pour répondre à l'attente que j'ai, enfin tu vois, pour
vois
pas qu'on me juge
dire.
En disant mais il faut absolument qu'ils fassent voilà, qu'ils interviennent, qu'ils fassent ça. Donc voilà, donc je trouve que c'est arriver à se dire attends, je
se détacher aussi de la pression sociale
extérieur.
Qu'on peut avoir quand on est parent,
voilà.
Parce qu'il y a aussi une pression sociale à ce niveau-là,
et donc ça va hyper vite, le jugement. Alors là, évidemment la belle-mère et les voisins, etc., mais c'est hyper dur en fait, ça. Donc juste bon, c'est vraiment un conseil à deux balles.
Ouais.
Mais
c'est pas du tout un conseil à deux balles. En plus,
l'éducation, on n'a pas confiance en soi, parce que par définition, on n'a pas fait l'école des parents. On le découvre. Il y a des bouquins, évidemment, mais chaque enfant est unique. Tout le monde y va de son conseil. Donc,
c'est
hyper dur. En fait, au fond, vous connaissez vos enfants mieux que quiconque. Et donc, nous, on l'avait vraiment vécu. On avait plein de gens qui nous disaient ah, il est comme ci, il est comme ça. Et en fait, non. Je me suis retrouvé à faire des choses que je regrette, parce que c'était pas ça qu'il fallait faire, je le sentais pas. Et donc, voilà, et en revanche, il faut bosser, hein. Nous, on avait fait des trucs de parentalité positive, on était dans des groupes et tout, donc on peut bosser la question, mais en revanche, on doit être autonome, enfin, il faut s'assumer et prendre ce rôle sans trop intégrer le regard extérieur. Mais il faut bosser quand même à la question.
Je suis d'accord.
Bon, donc ça, c'est
merci
ça.
Beaucoup pour ta franchise.
Ensuite, le coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur récemment?
T'es pas obligé d'en avoir, hein,
non,
si tu
je
me dis j'ai rien du tout. Parce que tu bosses trop et que t'as pas le temps de faire quoi que ce soit.
Non, bah, j'ai ce que je trouve intéressant, moi, c'est le coup de cœur pour la jeunesse, on va dire. Parce que il faut quand même avoir le moral, faut avoir 20 ans en 2022, quoi. Franchement, je pense souvent à eux. Franchement, moi, j'étais à des années-lumière de considérer qu'il y avait des problèmes, quoi. Enfin, je dis souvent que je crois que j'avais 20 ans au moment où on avait théorisé la fin de l'histoire. Genre, le capitalisme a battu le communisme, il fait beau, on a gagné France 98, on est champion du monde.
Ouais,
tout va bien.
Très innocent, ouais.
Et là, mais tu as 20 ans maintenant, mais c'est terrible, quoi. Franchement, donc, chapeau, parce qu'en fait, au lieu de tout péter ou de, alors certains, là, il y avait une vidéo virale sur le fait que certains diplômés renonçaient à rentrer dans le système, mais en tout cas, il y a de l'allant, quoi. Il y a de la volonté. Donc moi, je le vois au quotidien, et c'est peut-être ça qui fait que j'ai la pêche, c'est que je vois tous ces entrepreneurs, tous ces jeunes dans les boîtes qui sont au taquet, même au sein d'Utopia. C'est génial. Les plus jeunes recrues, c'est ceux qui nous poussent le plus sur notre mission, le fait de se bouger, de pas faire de compromis. Donc moi, je dis chapeau à la jeunesse, qui se bouge, la conscience des choses et qui casse un peu des... Justement, eux, ils s'en foutent de changer de job. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas rattrapés par les contraintes de comment je paye un appart et tout, parce qu'effectivement, le système t'impose, te rattrape à un moment ou à un autre. Donc, mais en tout cas, moi, j'ai dit coup de cœur pour la jeunesse mondiale. Coup de gueule... Alors, j'avoue que le débat public depuis... Enfin, le débat public m'a atterré. Donc, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est complètement dingue qu'on n'ait pas de... qu'on en soit encore un peu à des considérations d'un autre temps ou qu'on ne parle pas des vrais sujets. Enfin, c'est vrai que, en fait, ce qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout est tenu par tellement de paramètres qu'on peut pas changer. Je trouve que par exemple le politique est devenu complètement inefficient, à part sur quelques décisions sociétales, genre le mariage pour tous, mais par exemple niveau économique, niveau organisation, niveau même géopolitique, je veux dire, on a créé la SDN puis l'ONU, on a la guerre en Ukraine. Donc en fait c'est terrible, j'ai l'impression qu'en fait on est impuissant. Alors du coup c'est un coup de gueule contre rien, parce que je sais pas à qui je peux gueuler, mais en fait ça m'affecte vachement de me dire qu'en fait collectivement on a créé
un système.
Un système qui déjà nous autodétruit quand tu vois la gueule de la planète, l'état de la santé des gens, l'obésité, la perte de sens et tout. Donc on a créé une société de consommation, de croissance infinie, d'interconnexion et tout ça. Et donc il y a évidemment des bénéfices, hein. On a prolongé la durée de vie des gens, on a globalement, on vit mieux quand même qu'il y a quelques années, mais qu'il y a 100 ans. Mais en même temps, on s'est auto-annihilé et c'est terrible en fait, je trouve. Et on a l'impression qu'on est passif. Genre Obama, quand il a été élu, j'ai cru qu'il allait changer le monde. J'étais au taquet. C'était pendant mon voyage, j'étais au Caire quand il a fait son discours. Franchement, j'étais euphorique. Il s'est rien passé. C'est vrai que c'est plus fort que lui. Il y a l'économie, il y a les autres circuits. Donc voilà, donc le coup de gueule, c'est contre le système qui fait que du coup, en fait, rien ne change.
Sauf via les entrepreneurs.
Voilà, mais donc c'est exactement. Donc du coup, au lieu d'attendre que le système change, exactement. Donc du coup, c'est peut-être ça qui m'a remotivé, c'est de me dire, allez, moi, à mon petit niveau, c'est parti. Je sais avoir des fonds. Je vais chercher des entrepreneurs qui me parlent. Et nous, on change pas la grande photo. On change le quotidien de.
Ouais, mais c'est comme ça que ça commence.
C'est comme ça que ça commence. Donc, du coup, c'est un coup de cœur, en fait. C'est un coup de. et ensuite, l'état de la France, du coup, c'est un peu ce que. C'est
Ouais. Alors, on a explosé les compteurs en termes de durée, mais c'est pas grave. Non, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je sais pas. Carte blanche.
Merci pour ton temps. Et c'est toujours. Enfin, je trouve que l'interaction est agréable parce qu'effectivement, tu vois les nuances. Tu as l'habitude de rencontrer des gens. Je pense que tu sais voir les différentes dimensions, mais ouais, c'est toujours un exercice pas simple de
parler. Tu t'en es bien sorti quand même.
Non, mais parce que est-ce que c'est intéressant, parce que j'ai vraiment des choses à dire, puisque je suis vraiment au milieu du
guet. Je pense que t'as plein de choses à raconter. T'as plein de choses à raconter, et tu devrais d'ailleurs le faire de manière indépendante. Merci beaucoup Antoine, très belle route à toi, et à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.